Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour.
À la une ce matin, les contaminations qui augmentent, les hospitalisations avec, le plan blanc réactivé en région parisienne, des tests salivaires autorisés et des reconfinements locaux dans certaines parties d'Europe, notamment dans le nord de l'Angleterre. Reportage dans un instant. Les autres titres, Hélène.
Une victoire judiciaire pour des descendants de gueules noires dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous entendrez l'émotion d'un fils. Le Tour de France, le contre-la-montre sur les terres de Thibaut Pinot aujourd'hui. Et puis orage, forte pluie, héros Gare Lozère en alerte orange. Point météo complet à la fin du journal.
Un mot sur l'invité à 8h20. Question ce matin au maire de Perpignan, Louis Alliot, du Rassemblement National.
France Inter. Plus de 13 000 cas en 24 heures, du jamais vu encore depuis le début de la pandémie, et ça fait quelques jours qu'on en voit les effets à l'hôpital. En une semaine, le nombre de patients Covid a bondi, plus 45%, plus 48% même pour les admissions en réanimation. Les soignants voient déjà la saturation à l'horizon, et en région parisienne, l'Agence régionale de santé a réactivé mercredi dernier son plan blanc. On ne l'a su qu'hier soir. Information France Info de notre consoeur Anne-Laure Danier.
L'Agence régionale de santé a demandé aux hôpitaux d'Île-de-France de réactiver leurs cellules de crise et de lui communiquer la liste des personnels mobilisables ainsi que le nombre de lits disponibles. L'idée, c'est de pouvoir répartir les malades entre les différents établissements et de faire appel à du personnel supplémentaire là où il y en a le plus besoin. La tension est montée d'un cran dans les hôpitaux de la région la semaine dernière avec un bond de près de 90% des passages aux urgences pour des cas de Covid. C'est cette courbe exponentielle qui a poussé l'ARS à réactiver les mesures du plan blanc. Un plan déclenché le 13 mars dernier par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui n'a jamais été levé, mais dont les mesures avaient été assouplies après l'accalmie post-confinement. Aujourd'hui, explique un membre de la direction de l'ARS, les chiffres repartent à la hausse, donc on réactive.
Et à l'heure où les contaminations augmentent, les longues files d'attente devant les laboratoires continuent de s'allonger des jours et des jours avant d'avoir le résultat. Ils étaient donc très attendus, les voici autorisés, ces tests salivaire. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert hier soir, mais attention, ça ne concernera que les personnes symptomatiques et pour qui le prélèvement nasal est compliqué, les enfants ou les personnes très âgées. D'ailleurs, ce test salivaire n'est fiable qu'à 75%, à peine 30% pour les patients asymptomatiques. Bref, on sait déjà que ça ne suffira pas à désengorger les laboratoires. Le Covid qui rattrape le gouvernement après le Premier ministre Bruno Le Maire, le patron de Bercy, testé positif, il l'annonce hier soir. Il se met à l'isolement chez lui pour les 7 prochains jours. Il n'a aucun symptôme, assure-t-il, et va continuer à travailler à distance. Et puis Sciences Po, Paris, touché à son tour. Le campus restera fermé lundi et pour 14 jours, une quarantaine de cas positifs sur les 3000 étudiants.
Prendre les devants, prévenir plutôt que guérir.
C'est ce que font des villes comme Nice ou Toulouse. Les préfets ont décidé hier de limiter les rassemblements à 10 personnes dans les parcs, sur les quais ou la plage, de fermer les bars et les restaurants plus tôt, avec interdiction de diffuser de la musique dans la rue, interdiction aussi de vendre de l'alcool à emporter passé 20h, bref, tout faire pour éviter le pire et le reconfinement. Comme ici à Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, sérieuses restrictions de liberté, pas toujours bien comprises de la population. Reportage de notre correspondant Richard Place.
Entourée de ses amis dans son pub préféré, Lisa fait la conversation. Selon elle, ce n'est pas compliqué de respecter les consignes.
Ce sont des restrictions à moitié, ça ne nous affecte pas vraiment. Tant que je peux sortir pour faire mes courses et que ma fille va à l'école, ça peut sembler égoïste, mais c'est pas si dur quand vous y pensez.
Sauf qu'il est également interdit de rencontrer des gens extérieurs à son foyer, comme elle le fait en ce moment même, et là, le ton change.
Vous dites que je peux pas venir dans un bar et boire un verre avec mes amis, c'est ça ?
Lisa s'emporte et il est hors de question finalement qu'elle change ses habitudes pour des politiciens londoniens qui ne comprennent rien à la vie ici, loin de la capitale. Loin des pintes, Dawn profite de la verdure. Dans un parc du centre-ville, elle est avec Alfie, son petit chien. Dawn affirme qu'elle respecte les règles.
Excepté ici, dans le parc. Pendant une heure, on laisse nos chiens socialiser. Mais nous, les humains, nous restons à 3 mètres les uns des autres. Nous sommes toujours très prudents.
Dans le centre-ville, un vent frais saisit ce vendeur de téléphone posté devant son magasin. Il se lamente sur ces rues qu'il juge désertes et prie pour que n'arrive pas un deuxième confinement général. Newcastle, Richard Place, France Inter.
Et puis au chapitre du reconfinement, vous voici aussi Madrid en Espagne. Certains quartiers parmi les plus pauvres sont bouclés, plus de 800 000 habitants concernés. Un vaccin anti-Covid pour avril, un vaccin pour tous les Américains, outre-Atlantique, la dernière promesse en date du président Donald Trump. En bref, toujours aux États-Unis, la mort de la doyenne de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Elle avait 87 ans, deuxième femme juge de l'histoire à siéger, icône de la gauche progressiste. Des milliers d'Américains spontanément se sont retrouvés devant la Cour suprême cette nuit pour lui rendre hommage. Hommage aussi de Donald Trump, mais déjà on voit pointer le calcul politique. Trump va vouloir nommer un juge conservateur pour lui succéder. De quoi bouleverser l'équilibre de la Cour suprême à moins de deux mois de l'élection présidentielle. États-Unis, Chine, rien ne va jamais. Pékin accuse ce matin Washington de pratiquer l'intimidation. On peut rappeler qu'à partir de demain dimanche, les Américains ont interdiction de télécharger les applications TikTok et WeChat. Le ministre du Commerce chinois promet ce matin des représailles.
En France, Hélène, la fin d'un combat de près de 60 ans, ça concerne les descendants de mineurs grévistes du Nord-Pas-de-Calais.
Des gueules noires violemment réprimées en 48 et en 52, près de 3000 licenciés dans la foulée. Licenciement abusif, les descendants avaient droit à une indemnisation, certains n'en avaient jamais vu la couleur. Le Conseil constitutionnel vient donc de leur donner gain de cause. Plus que l'argent, c'est une question de mémoire et de reconnaissance. Manon Klein.
Après des années de combat, cette victoire, René Dufossé n'y croyait presque plus.
On était de déception en déception, vous savez, on se pose toujours des questions, donc on se demandait si on allait en voir la fin de toutes ces choses-là.
Et ça, c'était avant que le secrétaire de la CGT chez les mineurs, Raymond Fracoviac, l'appelle pour lui annoncer la bonne nouvelle.
La première des choses, quand Fracoviac m'a dit « ça y est, on a gagné », excusez-moi, j'ai systématiquement pensé à mon père, c'est normal ça. Et mon père, c'était des vieux combattants. Ils n'avaient peut-être pas toujours raison, mais c'était des gens qui défendaient le monde ouvrier.
Le papa de René, délégué CGT à l'époque, avait dû fuir et se cacher avant d'être emprisonné pour avoir fait grève. En 2014, première victoire pour les descendants de mineurs grâce à la ministre de la Justice de l'époque.
Quand on a vu que Madame Taubira a réussi à obtenir un dédommagement pour tous ceux qui ont souffert de ça, c'était quelque chose de formidable. Et nous, on était restés dans les spectatifs parce qu'on n'y pensait plus, c'était en 48 cette histoire-là.
Seulement René n'est pas au bout de ses peines, comme plusieurs autres descendants, on lui refuse l'indemnisation pour des raisons administratives. C'est seulement aujourd'hui qu'il obtient gain de cause.
Manon Klein de France Bleu Nord. Allez, on termine avec le Tour de France 20e et avant-dernière étape aujourd'hui avec un contre-la-montre de 36 km entre Lure et la planche des Belles-Filles en Haute-Saône. Le Slovène Primoz Roglic devrait rester en jaune, mais cette étape se devait être, on va remuer le couteau dans la plaie, se devait être le jour de gloire pour le Français Thibaut Pinot, ici, là, sur ses terres, chez en lui. Conquérant chez lui. Bah, c'est raté. Après sa chute dès la première étape, 30e au général ce matin, l'enfant du pays n'arrivera pas en jaune, mais il compte bien savourer, hein. Malgré tout, au moins donc pour le plaisir. Fanny Lechevestrier.
Impossible de se mettre à la place de Thibaut Pinot, d'imaginer la nuit qu'il a pu passer et ce qu'il ressentira au départ sous les coups de 16h16 quand il verra toute une commune, celle de Lure, et tout son village Mélisey, 9 km plus tard, décoré à sa gloire pour ce qui devait être son jour, celui de sa consécration après un tour taillé pour lui. Hier encore, il ne laissait guère entrevoir ses sentiments.
On va pas dire que la fête est gâchée, mais voilà, ça va être peut-être le seul moment de plaisir de mon Tour de France, ça sera ses 35 km de chrono à la maison, donc voilà, je suis quand même pressé d'y être, pour prendre du plaisir justement.
Savourer malgré tout au milieu de 3000 km de souffrance ou quand l'orgueil d'un champion vous pousse à vous dépasser, souligne Thierry Gouvenou, le responsable du tracé du Tour.
Il est fier, il est orgueilleux et il a envie de faire plus de plaisir à son public et je crois qu'il n'y a que ça qui le tient.
Et là, Thibaut Pinot verra qu'il reste, quoi qu'il arrive, le champion de cœur de toute une région qui hier encore inscrivait par centaines son nom sur les pentes de la planche des Belles-Filles alors que son fan club se préparait à revêtir tire des t-shirts avec ce texte en majuscule.
T'es grand aujourd'hui ! T'es très grand !
De quoi vous arracher quelques frissons au sommet de la planche et peut-être même des larmes de joie.
Début du contre-la-montre à 13h et départ pour les fans. Thibaut Pinot, c'est 16h16. C'est pas compliqué à retenir.
Très bien. Et 36 km 200 à parcourir pour ce contre-la-montre. C'était le journal d'Hélène Roussel. Le temps de ce samedi.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous, aujourd'hui, comment ça va ?
On va le rappeler, hein, Collado, Michel Collado, j'avais oublié votre prénom.
Michel Golinski.
Michel, bah oui, voilà. Michel Golinski. On va le répéter, attention aux orages et aux fortes précipitations, hein.
Tout à fait.
Pardon.
Avec un véritable épisode cévenol qui se met en place sur le Languedoc, avec donc de très fortes pluies sous les orages, en particulier sur le relief. Conséquence, l'Hérault, le Gard et la Lozère sont en vigilance orange jusqu'en fin de journée. On notera également un vent de sud assez fort dans le golfe du Lion, classique dans ce genre de situation. Et actuellement, on relève des rafales à 120 km à l'heure au sommet du mont Tégoual. Sinon, c'est le retour en général de la pluie et des orages aujourd'hui sur les deux tiers du pays. Seules les régions du nord de la Seine au Grand Est vont conserver une ambiance plus calme. Mais partout ailleurs, tous les ingrédients sont réunis pour former des orages puissants, accompagnés de fortes précipitations et même de grêles, notamment sur les régions de la moitié ouest, entre l'Occitanie et la Bretagne. Les températures, toujours élevées, affichent déjà 23 degrés actuellement à Paris ainsi qu'à Béziers et à Nice. Cet après-midi, les maximales vont rester entre 10 et 15 degrés au-dessus des normales.
Et je dis bien Jean-Michel Golinski, pardon Jean-Michel.
Voilà qui a dit rectifié, merci.